Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Avec Laure Lefailleur, avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo jusqu'à minuit, bien sûr. À l'after et la tous les soirs en direct. L'actu du jour tout de suite. Alors, on va parler de José Amigo, qu'on a eu dans l'after, nous, bon, pour un événement bien malheureux il y a quelques jours, puisque c'était le décès de Pape Diouf. Il nous avait reparlé de toutes ses aventures avec Pape Diouf à l'OM. Et là, il a donné une interview dans la Provence pour revenir, en fait, sur, rappelez-vous, la période des champs où l'OM est champion de France et la mésentente qui était de notoriété publique. Entre José Anigo et Didier Deschamps. Et là, Anigo dit plein de choses intéressantes. On va ensuite, je vous donne les faits, hein, puis après on va débattre. Il dit Anigo, en fait, le problème, c'est Jean-Pierre Bernès, dit José Anigo. Anigo dit, il a foutu un bordel monstre entre Didier et moi. C'est ça la vérité. Je rappelle que Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps, c'est la vérité, dit Anigo. Et à la fin, il n'y avait plus de confiance, ni d'un côté ni de l'autre. Didier ne me regardait plus de la même manière, et je ne le regardais plus de la même manière non plus. C'était légitime, mais en réalité, entre lui et moi, il n'y a jamais eu de problème majeur. Je cherche parfois encore à comprendre comment on a pu en arriver là, et j'ai du mal à trouver. Mais je n'ai pas de mal à dire qu'il a fait du bon boulot. Il a été champion de France, c'est son titre. Il a été très méritant. Voilà. Donc voilà ce que dit Anigo. Donc il dit voilà, en fait, c'est parti en vrille entre nous à cause de Bernès. Hein. Il dit qu'avant on s'entendait bien, ils ont été formés ensemble à Clairefontaine, ils ont passé les diplômes ensemble. Voilà, il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, et alors, autre déclat qui n'a rien à voir avec Jean-Pierre Bernès, parce qu'on questionne José Anigo sur la période 2010 où le président, rappelez-vous, était Jean-Claude Dacier. Ouais. L'année du titre. Et là, Anigo dit, moi j'ai beaucoup de respect envers Dacier, parce que contrairement à d'autres, par exemple Vincent Labrune, alors là il allume Vincent Labrune, Jean-Claude est un homme courageux, qui a le sens de la parole, qui est honnête et droit. Vincent Labrune a voulu se donner l'image de quelqu'un qui connaissait le foot, mais c'était pas le cas. Pape Diouf était largement supérieur à lui, et Jean-Claude a eu l'honnêteté de dire très vite lui qu'il ne maîtrisait pas le foot, qu'on le veuille ou non, Dacier restera un président qui a gagné. Alors oui, il a profité du travail de Pape Diouf, aussi de suite Guéretz, mais voilà. Il était là quand ça a gagné. Voilà, donc il met un petit coup comme ça à Vincent Labrune en passant aussi. Ouais, bon. Donc voilà les déclats du jour de José Anigo dans la Provence.
Ouais, bon, de toute façon, c'est son ressenti. Après, je pense qu'il a surtout en travers de la gorge cette entente en effet avec Didier, parce que quand c'est l'année du titre et que toi t'es dans le club aussi et puis que t'es investi dans ce club-là et que avec l'entraîneur numéro un, ça passe pas trop. Voilà, il doit l'avoir un petit peu mauvaise, mais après il dit tellement de vérité sur la brune que qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tiens, de toute façon on a vu
ouais, il y a longtemps que j'avais pas entendu parler de l'Orléanais là, ça me
ah de la brune
ouais.
L'Orléanais, ah, t'aimes bien l'Orléanais.
Bon, voilà. Non, mais c'est on est 10 ans plus tard et chacun livre un peu ses vérités.
Il y a encore du poids dans le football français.
Bah, il est au conseil d'administration de la Ligue.
Oh, s'il était que ça.
Vincent Labrune.
Il est conseiller de beaucoup de clubs.
Mmh. A conseiller de beaucoup de clubs.
Laure, non, rien, pas de réaction.
Non, mais on sait pas exactement comment la relation s'est détériorée.
Oui, il rentre pas dans les détails.
Bernès, ouais, c'est ce que j'allais dire. On sait pas vraiment quel rôle a joué Bernès dans cette relation qui s'est détériorée entre Anigo et Deschamps. Donc, l'agent serait fautif, mais on n'en sait finalement pas tellement plus.
Alors, j'en viens maintenant aux ex-joueurs du PSG. Démarrons par le cas Rabiot. La Stampa, quotidien espagnol, italien, sérieux, explique aujourd'hui que Rabiot n'est pas encore rentré à Turin. Ah, il n'est pas le seul. Hein. Higuain non plus n'est pas encore rentré à Turin. Alors Higuain a vraisemblablement demandé à rester un peu plus longtemps en Argentine puisque sa mère
était pas bien.
Sa mère est malade. Voilà. Rabiot n'est pas là. La Stampa dit qu'en fait c'est pour protester contre l'accord concernant le gel des salaires. Voilà, une sorte de grève individuelle, dit la Stampa, qui passe mal à Turin. Alors évidemment, la Stampa fait des projections en disant, bon, vraisemblablement, c'est sa mère qui lui aurait conseillé de faire ça.
Oui,
voilà, donc Rabiot n'a pas accepté, selon la Stampa, n'a pas accepté le gel des salaires à la Juve. Je rappelle qu'en plus, ce gel des salaires à la Juve, c'était un report de salaire, en fait. Hein.
Oui, pas c'est un report. C'est, voilà. Pas, c'est pas, ils mettent pas une croix dessus.
Voilà, donc voilà ce qui
se passe comme ça aujourd'hui.
Et cette information, elle est vraiment vérifiée?
Bah écoute, là, c'est pas, c'est sérieux, Daniel. C'est pas.
Alors.
Pas un tabloïd.
Ce soir, il y a quand même une communication qui est différente, puisqu'on dit qu'il va retourner.
À Turin.
À Turin, et que finalement, la Juve n'aurait rien à lui reprocher. Donc, tant qu'on ne sait pas réellement si ça s'est passé comme ça a été dit dans le journal, et qu'au fond, il n'y a rien qui mérite sanction. C'est un petit peu compliqué.
Bah, c'est surtout que Daniel, l'entraînement, il n'a pas repris.
Voilà.
Il
n'a
pas repris, donc c'est pas une obligation d'être déjà rentré à Turin.
Si, il est pour les étrangers, oui, apparemment, parce que tu es obligé de passer
en quarantaine.
Cristiano est revenu, par exemple.
Ouais. Et tous.
Sauf Higuain. Et Rabiot.
Ouais, mais si à partir du moment où il se présente le jour de l'entraînement, il n'y a pas spécialement de problème.
Non, c'est que il est en retard sur le truc. Alors après, ce qui est sorti, moi je suis d'accord avec Daniel. Ce que je veux dire, la communication de la Juve, elle est comme ça. Mais ces clubs-là, ces grands clubs-là, ils sont aussi très forts dans la communication. Ils vont pas mettre de l'huile sur le feu. Ils vont essayer de régler.
Ils vont régler ça en interne. Voilà. S'ils doivent le sanctionner, ils le sanctionnent.
Exactement. Voilà. Et s'ils vont lui dire, bah tu fermes ta tronche parce que ça va se régler en interne. Et c'est comme ça et c'est mieux pour
et
tout le monde.
Et s'il va trop loin, il sera viré.
Oui, voilà. Bah,
il
voilà,
sera viré comme ils ont déjà fait. C'est pour ça que une centaine d'excités un peu abrutis qui ce matin disaient, tu disais que la Juve et machin, ils géreraient mieux que le PSG. Ben oui, ils vont mieux le gérer. Ils vont évidemment mieux le gérer que le PSG parce que ça va pas se répandre. Parce que ça va pas chier de tous les côtés, parce que s'ils doivent le sanctionner, ils le sanctionneront. S'il va trop loin, il sera viré. Encore que dans l'affaire spécifiquement Rabiot, il y a eu d'énormes problèmes au PSG. Ils ont mis le temps, mais à la fin de l'avoir mis au placard Tricard, on avait soutenu décision.
Ouais, ouais.
Et là, pour le coup, il s'était rattrapé à Paris. Ouais. Il avait bien terminé.
Ouais, ouais.
Ils avaient très mal commencé en le laissant faire ses caprices indéfiniment. Mais sur la fin, il l'avait bien géré.
Ouais.
Donc les mecs, quand ils ressortent des phrases et tout, il faut aussi qu'ils datent un peu. Mais là, en l'occurrence, la Juve gérera mieux, oui, s'ils sont. Bon, voilà.
Non, mais ils sont au-dessus de Rabiot, Daniel.
Ils sont largement au-dessus de Rabiot, oui, bien sûr. Donc, ils vont s'en foutre un petit peu de ses caprices.
Si Rabiot, il n'est pas content de la baisse des salaires,
s'il n'est pas content
de son temps de jeu à la Juve.
Voilà,
de toute façon, franchement, le dernier match qu'on a eu à commenter. Et ça date maintenant, c'était Lyon-Juve.
Oui, on y était ensemble.
Hein, d'accord, on y était. On l'a vu tellement il était heureux sur le terrain, ça s'est vu, hein, tu vois. Donc, peut-être qu'il est malheureux à Turin. C'est vrai que la Juve n'est pas un des meilleurs clubs au monde. Donc, écoute, il trouvera mieux, hein, si jamais il se plaît pas. Mais si c'est le cas, ça fera encore une fois un caprice de plus. De toute façon, il y en a eu tellement que maintenant.
On en arrive à l'ami de l'after, Serge Aurier, qui donc s'est écharpé avec Jérôme par médias interposés
il a répondu,
quelques semaines. Et là, Serge Aurier a répondu à Daniel. C'est dans un live, les fameux live Instagram qui sont désormais à la mode. Il dit, alors je cite Aurier, « J'ai répondu à Roten parce que c'est quelqu'un qui connaît le foot. C'est quelqu'un qui était dans le foot. Quand il parle, il sait de quoi il parle. » Voilà.
Bah, moi aussi, je suis dans le foot depuis super longtemps, hein, quand même.
Et là, Aurier dit, « Mais Daniel Riolo, il connaît quoi dans le foot ? Il a touché un ballon, lui, dans sa vie ? Dit Serge Aurier. Je ne pense pas, dit-il.
Non, c'est...
Moi, je confirme parce que j'ai joué au foot avec Daniel. Hein. Je confirme que Daniel a bien touché un ballon.
Ouais. Donc, ça existe encore, hein, l'argument.
Alors, je continue.
Ah ouais, continue.
Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le football français, lui ? Rien du tout. Je réponds pas parce que c'est pas quelqu'un qui va m'apporter quelque chose dans ma vie. Lui, il a commencé à me critiquer depuis Toulouse. C'est pas depuis Paris. Voilà. Est-ce que tu m'as déjà vu parler de lui ? Jamais de la vie. Il me dira peut-être que je suis pas bon, mais en tout cas, moi, je suis meilleur que lui. Voilà ce que dit Serge Aurier, Daniel.
Vamos, Serge.
Attends, tu devais pas compléter.
Bah non, là, j'ai tout dit. Là.
Mais non, mais Jérôme, il dit qu'il avait des infos.
Bah oui, parce que je l'ai eu au téléphone, parce que vu qu'il veut pas te parler, parce que t'as pas joué au football, je lui ai dit, bah écoute, moi, je suis obligé de le subir tous les soirs depuis maintenant 4 ans. Je sais qu'il a pas joué au football. Voilà, mais il s'en sort un petit peu mieux depuis 4 ans. Je repasse-lui un coup de téléphone un jour, tu verras, tu lui apprendras des choses. Voilà, donc, non, mais blague à part. Moi, ça m'a fait rire parce que franchement, vu que tous les deux,
là, vous... que c'est pas toi.
Non, vu que tous les deux, vous m'avez dit, oh, tiens, ton nouvel ami, Serge Aurier, et tout. Quand j'ai ouvert la page internet aujourd'hui, je rigolais. Écoute, j'ai dit.
Oh, ouais, attends. Franchement, je me suis marré peut-être plus que toi.
Moi, je me suis bien marré. Donc,
Moi, il m'a fait mon café.
Moi aussi, ça m'a fait rire. Hein.
Mais c'est là, je me dis, mais le mec, mais quand est-ce que tu vas te taire, quoi? Mais quand est-ce que tu vas arrêter? Tu t'enfonces à chacune de tes interviews. Mais tu te rends compte, en plus, l'argument du ballon et tout. J'ai envie de dire, mais va voir ton coach. Je pense que je vois mieux que lui. Il était pas si nul, hein, Mourinho, en foot. Hein. Il avait un petit niveau, mais comme nous.
Il jouait en D2, un niveau. D2 portugaise.
Ah, il jouait pas beaucoup. Peut-être il jouait un peu mieux que moi alors.
Ouais.
Ah, si, il a joué des niveaux D2.
Tu t'es un peu enflammé.
Il jouait mieux.
Ouais. Oh, l'autre, il a dit un peu mieux. Il a joué en D2, un petit peu mieux.
T'as joué en D2 de district. C'était D2, mais.
Enfin, qu'il aille voir son coach. Qui n'a pas été un grand joueur de foot, s'il faut avoir été un grand joueur pour lui adresser des critiques. Et effectivement, il a raison. Alors qu'il était à Toulouse, je disais déjà que ce n'était pas le meilleur arrière-droit de France ou d'Europe, comme le disaient certains journalistes. Le futur, enfin, je veux dire, les faits m'ont encore donné raison. J'y peux rien. J'y peux rien, comme à chaque fois, le temps finit toujours par me donner raison. Et je suis désolé, les détracteurs, vous pouvez continuer à chier sur Twitter, mais il n'y a que les faits. C'est juste les faits, les amis.
Bon,
que
allez,
les
faits. Dossier suivant.
Si, c'est toujours comme ça.
Dossier suivant.
Et d'ailleurs, attends, sur ce point, je voudrais quand même dire, avec la crise qu'on a traversée, et avec tout ce qu'on a entendu des politiques, des scientifiques sur des sujets très, très graves, franchement, je me suis dit, nous, là, on est quand même des génies. Parce que nous, ça n'est que du foot. On se trompe vachement moins que les scientifiques sur des sujets graves.
Hein. Ah ouais, ça c'est sûr.
On est vachement plus dans le vrai que beaucoup de scientifiques
qui se cherchent
et tout ça. Parce que moi je pensais que
c'est une matière un peu plus concrète, nous, qu'on a sous les yeux. Les scientifiques, ils sont obligés de faire 10 ans de recherche pour aboutir à des résultats.
Mais non, mais.
Respectons les scientifiques.
La science a a priori un côté un peu plus exact, je dis bien a priori,
qu'un
match de foot et que le sport et son incertitude. Donc je me dis que si ces gens-là qui ont 10 ans, comme tu dis, qui sont quand même des lumières, même des Nobel, j'ai entendu des Nobel tenir des propos. Si eux peuvent se tromper, alors que nous, on se trompe si peu, putain de génie qu'on est quand même.
Bon, dossier suivant.
Libère un peu plus.
Dossier suivant. Oh, Jean-Michel Aulas, dites donc.
Oh non.
Oui, parce qu'on apprend aujourd'hui. On apprend, c'est pas lui qui parle. Hein. On apprend aujourd'hui, en fait, de la bouche de Thierry Sauvage, qui est le directeur général de l'OL. Il dit, voilà, nous avons acté une diminution de salaire fixe du comité exécutif de l'Olympique Lyonnais, 15% par membre du comité exécutif, par solidarité avec les salariés au chômage partiel. Et cette baisse est même de 30% pour le mandataire social du club. Or, qui est le mandataire social du club ?
Jean-Michel Aulas.
Qui s'est donc appliqué à lui-même une baisse de rémunération de 30%. Voilà.
Bah ouais.
Soulignons ce geste.
Bah oui, de toute façon, s'il
ne
fait pas plus, bravo. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire plus.
Concernant.
Sur les gestes, là, oui. vas-y, tu fais.
Concernant, alors, j'en arrive à l'OL toujours. Je lis la l'OL et Amiens, qui en fait, les deux clubs ont fait ont déposé des recours dans le tribunal administratif. Alors. Différent. L'OL attend une décision judiciaire courant mai, donc concernant les recours engagés sur l'arrêt prématuré du championnat. Amiens, de son côté, a également déposé un recours pour contester cette décision injuste et infondée, dit l'avocat du club mardi. Donc voilà, ça y est, le terrain judiciaire est investi par Amiens et par Lyon aujourd'hui devant le tribunal administratif concernant les décisions d'arrêt du championnat. Dans l'actu du jour, je voulais également, il y a d'autres sujets, hein, vous parler de Victorino Hilton, parce qu'Hilton, il a 42 ans, Coco Hilton, et il va prolonger d'un an. C'est ce qu'a expliqué le club. On va discuter, dit Laurent Nicolin, on va, je pense, lui faire un an
bien,
de plus.
C'est bien, il a encore envie, il est encore au niveau.
Voilà, il aura 43 ans en septembre.
Vraiment chapeau. Vraiment.
Aussi bravo à lui, hein.
Ah ouais, même s'il est dans une position sur le terrain où c'est pas ce qu'on demande, c'est pas la position où tu cours le plus, mais il faut quand même être affûté, l'hygiène de vie, psychologiquement se remettre en
question. Vous voyez, le premier truc que dit Hilton, c'est sur l'hygiène de vie, il dit jamais de coca.
Ouais. Ah mais il a quand même, enfin le mec, non, il est quand même un peu genre force de la nature.
Du coup, ça te donne pas envie d'arrêter le coca ?
C'est ton commun, hein.
Coca. Donc arrête avec tes conneries. Je me suis mis à manger des graines comme toi.
Ah, t'as fait les graines toi aussi ?
Ah ouais.
Moi, j'arrive pas à m'y mettre. J'ai pas mangé des graines comme lui là.
Graines de courge. Graines de courge, très bien dans les salades.
Graines de courge, exactement.
Bien sûr. Bon.
Excellent.
Très très bon. Et Daniel va le sentir demain au tennis.
Je suis pressé. Moi j'ai repris ce matin.
Autre info du jour.
Ouais, finir la courge.
Moi j'ai repris à l'eau. Moi j'étais le premier. Ah il y avait que moi.
Une info bien triste à Rennes, décès aujourd'hui de Philippe Redon.
Oh là là.
Philippe Redon, qui est ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de Rennes. C'est un joueur historique parce que c'est lui qui avait marqué le premier but de Rennes dans une compétition européenne. C'était en 71, un but contre les Glasgow Rangers. Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe à l'époque.
Je le connaissais très bien, il était venu quelques fois dans l'after. J'ai commenté énormément de matchs avec lui pour TV5 à une époque de Ligue 1. Et de Ligue des Champions aussi pour le continent africain, notamment, on sait pas mal de matchs. Alors lui, c'était un consultant très spécial parce qu'il me disait toujours, écoute-moi bien, toi, tu fais le commentaire. Moi, il n'y a que le terrain qui m'intéresse. Hein. Moi, les histoires à côté, machin, je m'en fous, je te laisse tout ça. Moi, je vais t'expliquer. Et il avait des explications tactiques qui étaient toujours super intéressantes. Il était... Vraiment, il était très très intéressant comme type. Et effectivement, je l'ai vu un peu sur la fin. C'est très longtemps que j'ai pas de nouvelles de lui, mais je me doutais qu'il était pas bien et qu'il était malade.
Par ailleurs, on va en parler avec Polo, mais sachez que Emre Can et Witzel sont d'ores et déjà incertains pour sont pas là pour la reprise de Dortmund, donc face à Schalke ce week-end, hein, parce qu'il y a quand même mardi, on a des matchs samedi hein, en Bundesliga, les gars. Sachez que en Espagne, Laporta repart à l'assaut du Barça. Il tente un comeback. On en avait parlé l'autre jour avec Fred Hermel, et là, il dit, c'est quand même un argument pour les socios important. Il dit, je ferai tout pour ramener Guardiola. Les Catalans veulent qu'il entraîne à nouveau le Barça. Je vais lui parler, voilà, pour essayer de faire en sorte qu'il redevienne.
Les promesses. Les promesses.
Voilà, c'est les promesses de campagne, hein, bien sûr, du candidat Laporta qui veut reprendre le pouvoir. Au Portugal, je pense qu'on aura Nicolas Villas demain ou après-demain d'ailleurs pour en parler de la reprise au Portugal. On parle d'une reprise le 4 juin. Voilà, ça se précise. 4 juin pour la reprise du championnat portugais. Il sera là demain avec nous, Nico. Et puis sachez que l'OGC Nice a mis en vente des masques. Donc hier dans ces boutiques, des masques, ils sont franchement super réussis. Hein. Masque rouge avec le logo du club.
Voilà, on fait la même chose au PSG. Hein.
Et oui, Nantes l'a fait aussi. Ouais. 3000 masques vendus en 24 heures. Pam.
Ah ouais, mais ça a bien marché.
5 euros le masque.
À Paris, apparemment, ça a bien marché.
À Nice.
Ça a mieux marché que la demande. De diminution de salaire des joueurs. Hein. C'est vrai. Par contre, tu sais, j'ai bossé là-dessus, du moins j'ai parlé des abonnés, ça fait bouger les choses un peu, tu vois. Mm-hmm. Donc, à l'arrivée, il y aura une bonne nouvelle certainement pour les abonnés prochainement. Donc, si je peux être le responsable aussi de cette démarche-là, tant mieux. Que tout le monde ait un petit peu le choix. Ils attendaient la décision définitive de l'arrêt des compétitions et tout ça, nanana. Et puis et d'autre part, j'en reviens à dire que quand je parlais de la diminution des joueurs, des salaires, que c'était important pour la vie d'un club, parce que j'ai eu beaucoup de salariés au Paris Saint-Germain et ça m'a fait mal au cœur. Il n'y a pas qu'au PSG, mais là, je les ai eus moi. Donc ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils sont dans une situation très compliquée. Hein, ils ont des grosses diminutions de salaire, certains carrément en chômage technique parce qu'ils viennent plus tout bosser. Quand tu vois que ces gens-là galèrent aujourd'hui et que ça risque encore de durer parce que les joueurs n'ont jamais fait pas donné signe de vie au président parce qu'ils se sont pas mis d'accord sur la diminution de salaire. Et ben, je trouve ça dommage. Et encore une fois, on parlait d'institution, on parlait de respect du maillot, respect du club. Et ben, ce serait bien que les joueurs, d'un moment, ils se rendent compte que ce club-là, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi à travers les joueurs, le directeur sportif, hein, Leonardo, qui peut nous dire, ouais, je suis revenu pour ça, ça, ça. Mais il attend quoi, lui, pour faire montrer signe de vie sur la diminution de salaire, pour faire un bon geste, pour montrer l'exemple à ses joueurs? Ils attendent quoi, en fait? On se demande. Et à l'arrivée, t'as des familles qui sont en galère aujourd'hui. Et moi, ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc, je voulais le dire et j'espère qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être en prendre conscience et que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord collectivement, les joueurs du Paris Saint-Germain, mais je parle de Paris, ça pourrait être pour d'autres clubs aussi où les présidents demandent des efforts supplémentaires, des 20% de pertes. Et ben, si individuellement ils peuvent venir voir le président qui les a toujours soutenus et dire, bah écoutez, qu'est-ce que vous attendez que je fasse? Voilà. Et ben, si vous voulez que je fasse ça sur un mois ou sur deux mois, ben je vais le faire si ça peut sauver des emplois. Et ben, ça serait bien qu'il y en ait qui se réveillent de ce côté-là. Voilà.
Le coup de gueule de Jérôme est passé. Dernière petite info liée aussi aux montées-descentes. Là, l'AC Ajaccio fait savoir qu'elle se concentre désormais sur une faille juridique concernant les montées et les descentes. Donc l'AC A également lâche pas l'affaire, hein, 3e de Ligue 2. Et eux, ils disent dans les règlements, en fait, on parle de 3 descentes, 3 montées. Là, il y en a que 2. Donc tout ça ne rentre pas dans les clous. Donc là aussi, sans doute, bagarre judiciaire à venir. Eric, pour conclure, est avec nous au 32-16. Salut Eric.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Salut, tu voulais réagir à l'histoire Rabiot?
Non, mais moi, ce que je voulais dire sur l'histoire Rabiot, parce que c'est vrai qu'on s'enflamme super vite sans info vérifiée, pas vérifiée. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce joueur, il est ultra, ultra détesté et que c'est, au final, qu'on le veuille ou pas, tout ce qu'il va faire à partir de maintenant, je pense, surtout depuis le Mondial 2018, là où il a claqué la porte, il est fini. Moi, je vois pas comment il peut se pointer dans un vestiaire s'il revient pas, comme à la Juve, Et c'est,
mais il est fini depuis longtemps, on l'a dit, je l'ai dit mille fois. C'est,
ouais, mais quand, il a quand même
quand t'as ce genre de comportement-là, quand t'es toujours sous influence, isolé, qu'au départ t'avais des qualités parce qu'assurément il en avait, mais qu'il est jamais allé au-delà, qu'il avait une vie pas forcément méga rangée au niveau hygiène de vie à côté, tiens, c'est fini. Il y a plein de mecs qui sont passés au PSG sur les dernières années, qui au final... Bon, bah, puisqu'on en a parlé également ce soir, mais Aurier, c'est un peu le même cas de figure. Il avait probablement des qualités, mais il suffit de savoir, parce que notre métier, c'est aussi de parler avec des gens qui les connaissent. Nous, on connaît, on sait. Généralement, ce qui se passe à côté de la vie d'un joueur, ça donne des indications sur ce que ça va être sur le terrain aussi. Aurier, j'ai jamais misé un centime sur lui. Est-ce que je me suis trompé? Non. Il restera un joueur moyen qui va avoir une ou deux fulgurances de temps en temps, mais qui a quand même des très beaux contrats. Donc la vie est belle pour lui quand même, hein, il faut le dire. Rabiot, c'est la même chose. C'est en plus c'est des mecs qui pourtant arrivent à être dans des très bons clubs. Hein. Mais est-ce qu'ils marquent les gens? Est-ce qu'ils sont aimés des gens? Est-ce que ce sont des gens qui laissent des traces positives quelque part? À chaque fois qu'ils donnent des interviews, c'est pour revenir sur des faits qu'on leur a reprochés, pour se disculper, pour dire non mais j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû faire ça, pour contre-attaquer parce qu'ils ont été attaqués à l'image d'Aurier. Rabiot, lui, bon, le coup, c'est qu'il parle pas trop, ça. Au moins, on peut pas dire qu'il donne des interviews.
Daniel, est-ce qu'ils sont vraiment passionnés?
Bah, je pense que t'as tout dit. Voilà. Merci.
Bah, bien sûr.
Voilà.
Ils veulent, dans le temps imparti, ils se fichent du club, ils se fichent des salariés.
Mais oui, exactement.
Bien sûr. Alors, tu peux pas leur demander à ces mecs-là. Mais alors, après, comment. Enfin, je sais pas, mais des fois, quand dans les interviews, ils aiment bien raconter qu'ils étaient des enfants qui rêvaient de jouer dans les grands stades. Et comment ils peuvent regarder cet enfant dans les yeux en étant ce qu'ils sont devenus, quoi.
Ouais, n'importe quoi. Ouais, ils l'ont oublié, cet enfant, je te rassure, hein, et comme beaucoup.
À grand coup de millions.
Merci voilà. Eric, merci à toi, bonne soirée, salut, à très Eric. Bientôt dans l'After.
Bonne soirée, merci.
Salut, bye bye. Dans quelques instants, Paulo Breitner, le FC Hollywood, au programme. Messieurs, dames, on se retrouve tout de suite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Laurent Lepailleur, Daniel Riolo, Jérôme Rantaine, ils sont là, elle est là. Tout comme Paulo Breitner qui nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde, un gros bisou alors.
Oh, Polo, il est
salut
en forme.
Salut Polo.
Ah non, mais attends, Polo, il est en forme parce qu'il y a le quiz ce soir. On va bah démolir les enfants.
Je te laisse la première manche, mon cher Gilbert, nous sommes à l'extérieur, je te laisse.
Non, on est chez nous, on est chez nous ce soir.
On joue on m'a dit qu'on était à l'extérieur.
Non, il, allez, tu sais quoi, Julien veut qu'on joue à Francfort. Je lui ai dit non, mais nous au moins à Stuttgart, pas à Francfort, s'il te plaît.
Ah voilà. Oui, quand même, c'est ouais. Pareil. Ouais.
Alors, avant le quiz, on va parler dans nos after stories avec toi ce soir du célèbre FC Hollywood. Donc, les grandes années de n'importe nawak du Bayern. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, déjà à quelle époque exactement, et pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on l'appelait le Bayern le FC Hollywood?
Ben, en fait, le FC Hollywood est arrivé médiatiquement parce qu'on appelait le Bayern à l'époque une dream team. On pensait qu'ils allaient tout écraser. Alors, c'est exactement... Il y a une vraie période, en fait. Hein, c'est la période, en gros, 95-2004. C'est ça, la période du FC Hollywood. Et la période 95-96, c'est l'arrivée d'Otto Rehagel au Bayern Munich qui venait de passer 14 ans à Brême et qui devait tout casser avec l'équipe qu'il avait. Je voudrais juste rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on appelait la dream team. C'est qu'à l'époque, il y avait, par exemple, que je me rappelle pas, Kahn, pardon, excusez-moi, Elmer, Babel, Nerlinger, Strunz, Matthäus, Hamann, Sforza, Sutter, les Suisses, Tigue, Scholl, il y avait Otto Rehagel avait ramené l'Autrichien Herzog avec lui, il y avait Klinsmann devant, Kostadinov que connaissent bien les Français, ouais. Jean-Pierre Papin et Tsikler, tu vois, mais c'était un peu l'équipe.
Ouais, c'est daté en chronologie, la
exactement.
Période, on peut dire ça, c'est quoi alors?
Là où le parti de l'FC Hollywood, c'est en fait c'est la saison 95-96 où ça va exploser complètement au Bayern.
Où ils gagnent la Coupe UEFA quand même.
Ils vont gagner la Coupe de l'UEFA en faisant
en finale d'ailleurs. Ouais.
Voilà, en faisant une saloperie, excusez-moi, à Otto Rehagel, puisqu'ils vont le virer quelques jours avant la finale de l'UEFA. C'est Beckenbauer qui était président à l'époque, qui va reprendre l'équipe en main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette époque? En fait, il y a Otto Rehagel, il arrive. Bon, déjà, il a gagné, rappelez-vous, la Coupe des Coupes avec le Werder contre Monaco en 92. Vous savez, quelques jours après le drame de Furiani, il avait gagné deux titres avec le Werder, des Coupes d'Allemagne, etc. Et donc, on pense que ça va bien se passer. Lui, il arrive avec un mégaphone, déjà pour la première séance d'entraînement. Il engueule tout le monde. Il est à l'entraînement et il a oublié quelque chose, c'est qu'il est plus au Werder, il est au Bayern où il y a que des stars ou des stars en devenir. Et là, en fait, lui, on se rend compte qu'au Werder, il était plus en train de former encore des joueurs et non pas de s'occuper de vraies stars qui sont sur le terrain. N'oublions pas le contexte de l'époque. c'est le Borussia Dortmund qui domine la Bundesliga, champion en 95, champion en 96, victorieux de la Ligue des Champions en 97. Et donc le Bayern Munich est dans une période un petit peu compliquée au niveau des résultats. Ils en ont beaucoup moins que ce qu'ils avaient fait à partir, on va dire, de la milieu des années 80 où ils raflaient quasiment le championnat chaque année. En fait, ça va exploser très rapidement. Mehmet Scholl, en fait, ça se passe très bien au début. Hein. 7 victoires à la suite, on pense que le championnat est déjà, la Bundesliga est pour eux, etc. Mehmet Scholl va faire une interview dans le journal Kicker où il va défoncer Otto Rehagel en lui faisant comprendre que c'est lui ou c'est moi, parce que de toute façon, depuis là, on a toujours pas de tactique sur le terrain, etc. Jean-Pierre Papin sera aussi un petit peu dans le même cas de figure, parce qu'Otto Rehagel ne le voulait pas. Il voulait dégager Papin pour récupérer son joueur, un défenseur central, un certain Jürgen Kohler. Et donc, très rapidement, il va y avoir une ambiance désagréable qui va se passer. Tout le monde va s'exprimer, etc. À tel point que Beckenbauer, ils vont être forcés de dégager Otto Rehagel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et lui, il va prendre la place. Ce qui est important, c'est que donc ça, c'est le début officiel, si vous voulez, du FC Hollywood, alors qu'au départ, dans la presse, on parlait de Dream Team, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était les Jeux Olympiques aux États-Unis en 92, hein, qu'on appelait les Américains au basket, si je me rappelle bien. Hein. Et donc, c'est ça ce qui va se passer. Mais surtout, après, il y a des personnages, parce qu'on va commencer à parler de soap opéra, donc tous les médias vont arriver, notamment le journal Bild. Et il va y avoir certaines personnes. Évidemment, Lothar Matthäus, qui était un leader, qui donne son avis sur tout, qui avait un caractère très particulier, un petit peu militariste. Et en fait, on pense que beaucoup de personnes, bon, moi, pensent que c'est surtout un idiot fini.
C'est là que Lisa Razou lui met une baffe?
Alors ça, c'est plus tard. C'est alors Lisa Razou va arriver en 97 et il lui mettra une baffe en 99. Mais ça, c'est une chose qu'on connaît chez nous. Mais ouais. Si tu veux, quasiment chaque semaine, il y a des pains qui s'échangent à l'entraînement, notamment entre Linke et Kuffour. Vous vous rappelez qu'ils vont gagner la Ligue des Champions en 2001.
Il va avoir envie d'aller l'affronter avec Kuffour.
Donc voilà. Alors, mais, si vous voulez, il y a des joueurs emblématiques qui vont passer, comme Mario Basler, qui était un joueur magnifique, évidemment, qui lui aussi avait un caractère très particulier. Il était surtout grand amateur de Klopp et de caisses de bière. Donc, si tu veux, il y avait Oliver Kahn, évidemment.
Il y avait Mario Basler.
Voilà. Qui avait évidemment une frappe de balle assez extraordinaire. Ah bah, il y avait Oliver Kahn et sa célèbre maxime, Higher, wir brauchen higher, les couilles, nous avons besoin de couilles. Merci pour le football féminin. Il y a évidemment Jürgen Klinsmann qui aimait tout le monde, surtout sa grande personne, hein, qui ne supportait pas Matthäus, qui lui rentrait très bien. Et puis, il y a Stefan Effenberg, qui était, évidemment celui, la nouvelle génération, entre guillemets, qui voulait prendre la place de Matthäus, le fameux Light Wolf.
Mais
parce que là, Stefan Effenberg, il se fait exclure de la Coupe du Monde 94 parce qu'il fait un doigt d'honneur à tout le monde, au public notamment. Il a un avis surtout sur les chômeurs, etc. Et il a une spécialité, c'est de piquer les femmes des autres. Il va piquer la femme de son collègue en équipe nationale et au Bayern, le fameux Thomas Strunz. Stefan Effenberg, le tigre, surnommé le tigre évidemment, l'expliquera très bien dans son autobiographie où il dira de toute façon on s'en coupe le badet de l'aile, lui il trompait sa femme avec quelqu'un d'autre donc je me suis servi. Donc voilà. Donc c'est, si vous voulez, c'est cette ambiance là.
C'est génial.
Voilà. Et alors cette période est fabuleuse parce que il y a quand même un entraîneur italien qui va arriver, qui va exploser les plombs complètement en 1998 après une défaite à Schalke, c'est la fameuse conférence de presse de du Trapp évidemment qui est mythique.
On l'a. Un petit extrait, allez, pour se marrer. Rappelez-vous, parce que ceux qui n'ont pas vécu ça, en fait, Trapattoni devant une forêt de micro et là il pète littéralement un plomb en allemand avec accent italien. On y va.
Es gibt keine deutsche Mannschaft spieloffensiv oder dynamioffensiv wie Bayern. Sicher ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Offensiv ist wie machen wir einen Platz. Zweite, ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern.
Voilà, donc en gros il allume Scholl
mais attends, c'est super intéressant, c'est dommage, on aurait pu l'avoir un petit peu plus haut, il pète les plombs en fait complètement.
Ouais, mais bon, comme
gueule,
ça tout en allemand, ça, tu veux, je vais pas qu'on perde 100 000
non mais c'est justement c'est casse comme ça et puis d'un coup ça explose pas, c'est ça qu'il faut écouter.
Ah, ça monte mais ça monte en puissance mais ça dure 5 minutes.
Il faut juste trouver le passage de la du calme à la folie, c'est génial. Voilà.
Alors, ce qui est génial, c'est que Trapattoni ne parle pas parfaitement l'allemand, donc en fait, c'est des mix à chaque fois dans ses phrases où il faut décrypter ce qu'il veut dire parce que c'est comprendre qu'il n'est pas le père des joueurs, en fait, non, l'entraîneur, excusez-moi, que Strunz est toujours blessé, mais il l'ouvre tout le temps, etc., etc. Donc il allume tous les joueurs, et que ces joueurs, il fait comprendre que le Bayern, en fait, tous ces joueurs-là se croient des stars, mais pourquoi est-ce que le football italien, qui était le meilleur à l'époque d'Europe, ne les achète pas? C'est parce que c'est des daubes, c'est tout, en gros, c'est ce qu'il veut dire dans sa conférence de presse. Et à la fin, il fait quelque chose d'extraordinaire, il dit quelque chose que n'importe quelle personne qui parle pas parfaitement l'allemand le dirait. Il dit, ich habe fertig, qui est une traduction littérale, c'est j'ai fini, mais en fait, en allemand, ça veut dire je suis fini. C'est-à-dire que l'entraîneur, en gros, il se tire une balle dans le pied, c'est fini pour lui. C'est un truc extraordinaire.
En fait, il voulait juste dire, j'ai fini ma conférence de presse, je me taille.
Voilà. Mais en fait, c'est pas ça. C'est... Et puis, il revient après. Je sais pas si vous avez jusqu'à la fin. Il revient après. Ben il dit, si vous voulez, je peux vous répéter ce que je viens de dire pour que vous compreniez bien et tout ça. Donc, c'est cette période qui est assez extraordinaire. Ensuite, après Trapattoni, va arriver Otmar Hitzfeld, qui lui, évidemment, avait gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 97. On sait qu'il le remportera en 91, ce qui va être forcé de faire la police d'une façon extraordinaire, parce que il parle d'asile d'aliénés quand même de son équipe, et il va finir épuisé lors de sa première période entre 98 et 2004. Il va finir épuisé à tel point qu'on pense qu'il va faire une dépression et il va refuser la sélection allemande tellement il n'en peut plus pour aller se reposer, notamment en Suisse. Il reviendra plus tard. Donc c'est un peu ça, si tu veux, cette période. Mais je voudrais juste finir là-dessus.
Vas-y.
Ce n'est pas qu'un problème de joueurs, c'est aussi un problème dans les bureaux, parce que Uli Hoeness s'engueule avec tous les supporters parce qu'il y a les VIP qui arrivent, alors ça fait une même moins bonne ambiance dans les stades, donc il s'engueule avec les ultras, il les traite de tous les noms. Il y a le fameux président Franz Beckenbauer, double ballon d'or, qui officialise qu'il a un fils illégitime parce qu'il s'est amusé avec la secrétaire du coin. Il y a Karl-Heinz Rummenigge à l'époque qui passe des contrats de son côté en disant mais non, on gagne trop d'argent, alors que lui, le mec avec les médias, il passe des contrats pour raconter tout ce qui se passe. C'est un peu cette période-là qui est assez extraordinaire. On en parle toujours aujourd'hui du FC Hollywood, parce que par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, Lam et Robben à l'entraînement, ou alors les pins qui avaient échangé Ribéry avec Robben dans le vestiaire, ça fait toujours rappeler le FC Hollywood. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais ça fait partie de l'histoire, je trouve, mythique de ce club.
Ouais, franchement, c'est vrai que c'était extraordinaire. Moi, je me souviens l'after n'existait pas encore. Bon, on se serait bien marré quand même.
C'était fou.
Il a quoi, Polo? C'était à un moment quand je voulais te couper, c'est pour parler de Mataos. Il a quoi comme image? Parce que c'est un palmarès monstrueux du football allemand. C'est quoi son image à ce mec-là? Parce que ballon d'or, Coupe du Monde, enfin, il lui manque rien, quoi, ce type.
Bah ouais, sauf que c'est toujours pareil entre le joueur qu'il était, son côté très militariste ou militarisant, d'insulter tout le monde, de gueuler après les Néerlandais, de gueuler après toutes les autres sélections en faisant comprendre qu'ils étaient rien du tout et que eux, c'était l'Allemagne. Il y a un côté au passage très conservateur dans ses prises de parole. C'est quelqu'un au passage qui, rappelons-le, Uli Hoeness dira que tant que Uli Hoeness sera au Bayern Munich, Mataus ne sera jamais le balayeur à l'époque de l'Olympiastadion, donc du stade. Mataus, c'est quelqu'un qui fait partie, pour ça parfois je vous parle de l'ADN du football allemand, il fait partie de ceux qui ont gagné. Je sais qu'en Italie, lorsqu'il était à l'Inter, on le surnommait Il Panzer. Donc ça veut quand même dire quelque chose de bien particulier. Mais c'est quelqu'un, moi je l'ai rencontré il y a quelques années, hein, j'ai discuté avec lui. Il est toujours une fois dans une forme de compétition, si tu veux, et c'est quelqu'un, honnêtement, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, quoi. Donc c'est un monstrueux joueur, c'est le fou. Il a été, nous rappelons-le, champion d'Europe en 1980 déjà, et le mec il finit à l'Euro 2000 quand même. Donc c'est quasiment deux décennies, il se tape Zammer, etc. Mais c'est un type, il est imbuvable, quoi. Et il est surtout très mauvais entraîneur aujourd'hui. Il a toujours été très mauvais entraîneur, et il sait faire qu'une seule chose, c'est jouer au foot. Le reste, ses explications, enfin, c'est bidon, quoi. Et c'est un joueur, il fait partie des plus grands joueurs allemands. Quoi,
et juste pendant la période, combien de titres? Parce que malgré le bordel, ils gagnaient.
Ouais,
alors,
c'est ce que j'allais dire.
Ils vont gagner quand même la coupe de l'UEFA en 96. Ils vont gagner cette fameuse Ligue des Champions en 2001, rappelez-vous, contre Valence. Ils vont perdre celle de 99, rappelez-vous, c'est Manchester United.
Oui, bon, ils n'ont pas beaucoup oublié celle-là quand même, hein, tu sais.
Non, mais c'est important parce que
elles sont quand même importantes.
C'est un truc que les Allemands et les Néerlandais ont en commun, c'est qu'ils sont capables de se détester mais de gagner quand même ensemble.
Ah oui, c'était dingue à l'époque. Ils ont gagné
les championnats.
Je fais ça de mémoire. En 97, ils gagnent le championnat, c'est avec Trapattoni. Ensuite, 99, 2000, 2001, ils gagnent la Bundesliga. C'est déjà avec Hitzfeld. 2002, non, ils doivent gagner en 2003, pas 2004. Donc, c'est ça, en gros, cette période. Et puis, il y a des Coupes d'Allemagne, si je me rappelle bien.
Bon. Bah, écoute, Polo, merci de nous avoir rappelé ça. C'était top. Et le FC Hollywood, voilà, que vous retrouvez sur la page Facebook de Polo. Hein. Je fais toujours la pub, mais ça vaut le coup d'y aller.
Ah, oui.
Dans quelques instants, Polo, t'es prêt?
Non.
Laure, t'es pas prête, bien sûr.
Mais je te pardonnerai pas de perdre contre l'anglais quand même.
Oh là là. On est à deux, on est une équipe, donc on soutient.
Les Anglais, t'imagines si les Anglais gagnent en Allemagne comme ça?
Calme-toi, toi.
Ah ouais, mais
on va voir ça tout de suite.
C'est
le premier match de la Ligue fermée de l'After, c'est tout de suite dans le quiz.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Attention, grand moment ce soir, le premier match de la Ligue fermée de l'After. Je rappelle le principe, nous avons une North Conference, South Conference. Ce soir, c'est le... Alors on va mixer les matchs, c'est comme la NBA, hein. Ça part un peu dans tous les sens, un coup la conférence nord, un coup la conférence sud. Ce soir, on va faire le match aller, donc German Wings, Polo et moi, contre les London Wags, Laure et Julien Laurence. Et puis demain, je peux déjà vous annoncer le match de demain. Demain, ce sera les célèbres Lusitanos Grizzlies de Nicolas Villas et Kevin Diaz contre les Rocco Soldiers de Daniel.
Demain, nous je suis pas au courant, faut que je me prépare.
Je te l'annonce.
Putain, faut que je bosse sur le foot tos alors.
C'est quoi, c'est
pour qui piquer des points. Et ça joue à domicile ou sur quoi faut que je bosse? Ça joue à domicile.
C'est Julien Cazard qui va tout expliquer. Julien qui est là. Julien, bonsoir.
Ah, Julien.
Bonsoir. Bonsoir.
Faut que tu me
dises
si on est à domicile demain ou pas. Hein.
Alors demain, on est à Macaroni Land. On est chez les Macaroni.
Très bien.
On est chez Rocco. Chez Rocco, donc va falloir tu vas bosser à domicile. Tu n'auras même pas besoin de bosser. Ça va être tranquille. Ça passe crème, à mon avis.
Bon, Julien Laurence est-il parmi nous?
Ah, alors là.
Ah merde, s'il manque un mec.
Ah, on a perdu Julien.
Ah là, si.
Non, je suis là. Allô, allô.
Ah, ouais, Julien.
Allô, bonsoir tout le monde. Ça va très bien.
Ah, il est là, la wag.
Bon,
alors, je suis là. Écoutez, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Et alors, je suis
rappelle
ravi,
juste quand même, on a le temps. Hein, rappelle juste un peu le principe pour les matchs, quoi.
Ouais,
comment
vas-y,
ça va se passer.
Vas-y, Gennaro.
Le principe, c'est que ça va se jouer au meilleur des trois manches, avec une première manche à domicile pour une équipe, ensuite qui va jouer à l'extérieur. Et si jamais chaque équipe gagne une manche, il y aura une troisième manche qui se jouera sur terrain neutre en huis clos.
Pour évidemment, pénalty, quoi.
Si tu veux, tu peux dire. Alors écoute, j'espère pour vous que vous ne vous ferez pas cette petite peur, car les Anglais, je crois, ont vaincu le signe indien il y a peu. Donc moi, à mon avis, essayez de gagner maintenant.
Julien Laurent, c'est là, vous jouez, vous l'avez entendu.
Salut, je pense qu'il est temps de lancer officiellement les débuts de la LFA.
On a ressorti la musique, celle-là.
Chicago la Bush. Musique de la LFA. Nous avons ce soir deux grandes équipes qui s'affrontent, deux équipes qui font partie des favoris, des équipes de la conférence Nord. Je veux d'abord demander qu'on applaudisse l'équipe qui reçoit l'équipe des German Wings.
Il est top. Il est top professionnel. 1, 2, Polizei, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 9. Ok. Polo, on accepte ou pas?
Ouais, moi,
l'équipe.
C'est
qui ça? C'est pas Falco ça?
C'est un groupe.
Et qui ce groupe Polo? Tu sais ou pas?
J'ai trouvé. Si. Non, mais attends, je vais te trouver.
C'est pas ceux qui chantaient Dark Commissar. Hein.
C'est pas Falco.
Non.
C'est pas Falco.
C'est un truc qui s'appelle Oxo.
Modo, oui. Je pensais que tu aurais fait un hommage à Crasse Verte, mon cher.
À mon avis, ils viennent de Mac de Bourse là.
Ouais.
En tout c'est cas, Modo, c'est ça, ouais.
Donc j'ai bien c'est compris quand même que mine de rien dans cette équipe et en entendant le jingle,
attendez,
l'Alsace est repassé de l'autre côté du Rhin.
Il y a eu l'absorption
là.
Je rappelle que l'artiste. Alors attendez, l'artiste Modo s'appelait Fabio Fritelli. Je crois que ça fait très allemand.
Non, mais, attends, Fritelli. Il faut savoir quand même que 90%,
c'est contestable quand même.
90% de la disco des années 80, c'est les Italiens qui changent de nom. Hein.
Oui, c'est vrai. Et les producteurs sont les Allemands.
Voilà, donc c'est une essence. C'est l'Anschluss. Hein. C'est l'Anschluss. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite accueillir l'équipe visiteuse, les London Wags.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Ah oui, la Spice Girl, elle est là. Hein. C'est Laure. Ah ouais, Laure, je t'aurais bien vu dedans, franchement.
Ah non, mais la Spice Girl, c'est Jennifer Lawrence, hein, les deux.
Ça me va aussi. Ça me va aussi.
Parce qu'on m'a dit que t'avais les mêmes couettes que la rousse, que la blonde à l'époque.
Il est là, Jenny.
Ah ouais, bon. je me suis bien marié, j'ai pris l'argent, je suis content.
Voilà, t'es parfait, t'es bien, t'as fait le bon choix. On va t'appeler Poche, sous les yeux. Alors attention, on va. Est-ce qu'on peut enlever cette merde ou on va l'écouter toute la soirée.
C'était pas une merde, attends, arrête.
Non, mais ouais. Je parlais pas de Julien, je parlais de la musique.
Elle est mieux quand même.
Voilà, oui, ça va. On est chez nous.
Oh, l'acteur il part en couille.
Va jamais y avoir de quiz. Va jamais
y avoir de quiz. Va jamais
écouter d'ici la fin de la soirée. Der Kommissar. Oh oh.
Mais c'est Falco, c'est l'Autriche, c'est pas l'Allemagne.
Ah, pardon. Ouais, mais c'est une succursale.
Merci.
Allez, c'est parti. Allez.
On va commencer par le quoi qui kiffe kiffe. Là, tout le monde joue. Après, je vais faire jouer les uns contre les autres par duo. Par duel. Allez. Là, tout le monde joue. Quoi qui kiffe kiffe. Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United, Séville, FC Porto.
Ils ont gagné l'Europa League et la Ligue des Champions à la suite.
Alors je bloque, ils ont gagné l'Europa League.
Ils ont gagné l'Europa League et ils ont regagné l'Europa League derrière.
Non, alors je vais te dire, je te le donne, ils ont gagné l'Europa League. Ce sont tous les clubs qui ont gagné l'Europa League. Je l'accorde à l'équipe des German Wings.
Il donne la mauvaise réponse, il a un point. Il donne la mauvaise réponse.
On a vu ce que c'était.
Arbitrage à domicile. On
moi, je dis bravo au duché d'Elsace.
Oh là 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 là, mais quel scandale.
Mais comment il peut donner ce point?
Non, j'ai compris les règles. Donc tu donnes la mauvaise réponse et tu gagnes un point.
C'est bon, Julien, t'es.
D'accord.
Est-ce qu'il fallait autre chose qu'un arbitre tunisien pour ça? Mais bon. Alors attends. Thomas Müller. Référence aux Malouines, évidemment. Thomas Müller, Diego Forlan, Wesley Sneijder, David Villa. Là, par contre, je fais plus de cadeaux.
Ils ont marqué en finale de Coupe du Monde.
Ah. Non.
Meilleur buteur de Coupe du Monde.
Oui, alors, il faut être précis. Meilleur buteur de Coupe du Monde, ça ne me suffit pas. Thomas Müller, Diego Forlan, Wesley Sneijder, David Villa. Et là, c'est ouvert à tout le monde.
Meilleur buteur de Coupe du Monde l'année où ils ont été
en finale.
Je viens de le dire.
Non. Ils sont meilleurs de la Coupe du Monde.
D'avoir perdu en finale.
Non, ils sont tous meilleurs de la Coupe du Monde, de la même.
Sans.
Laquelle?
Ah, de 2010.
La sélection.
2010.
C'est Jenny.
Oh,
c'est Jenny Lawrence.
Bien joué, Julien.
Jennifer Lawrence.
Un partout.
Oh là là.
Bien joué.
Oh là là, le fourrage joué, extraordinaire. Oh,
on a tout, c'est nous qui avons tout bon.
On lui a fait une passe D.
Attends.
Là, Julien, il a fait ce qu'on appelle une Jérôme Leroy sur la frappe de Ronaldinho contre Marseille.
Allez, 1-0.
Bien sûr, j'ai volé un but.
On y va.
J'ai volé un but, mais tout compte.
Voilà, c'est l'anglais, la perfide Albion dans toute sa splendeur.
Ça me va, ça me va.
Toi qui kiffe, kiffe. Youri Djorkaeff, Basil Boli, Joël Batz, Pascal Olmeta.
Ils ont écrit une chanson, mais ils ont chanté, c'est des chanteurs.
Ils ont chanté une chanson, ils ont fait un disque.
Oh là là.
Bien joué, les Totos. C'est
Franz Beckenbauer aussi.
C'est un truc à domicile, ça?
Ouais, ça.
Non, tout n'est pas à domicile. Tout n'est pas à domicile.
J'attends une question Allemagne, moi.
Dernier question qui n'est pas à domicile.
C'est 3-1 pour nous. Qui kiffe,
Gilbert.
Eric Cantona, Chris Waddle, Marco Van Basten, Alexander Zickler, Lilian Lasland.
Ils ont tous joué
marqué un retourné acrobatique en Coupe d'Europe.
Non, alors je vais vous donner un indice. Cantona, Waddle, Van Basten, Zickler, Lilian Lasland, ils ont été le partenaire d'attaque d'un joueur.
Papin.
Dans sa carrière. Papin.
Ouais. Oh oui, Polo, t'es là, Polo.
C'est pas belle celle-là.
Bien joué, Polo.
Ça vaut au moins 2 points, ça.
On va passer au Kiki Speak. Le Kiki Speak. Attention, cool. On va commencer par Laure Le Pailleur.
Allez, Laure.
Laure Le Pailleur, est-ce que tu es prêt à scander le nom?
Est-ce que derrière les autres sur un chien ou pas?
Non. Là c'est okay. Que Laure. Attention Laure, pour le Real Madrid 2013-2014, en numéro 11.
2013-2014.
En numéro 11. Je veux un nom tout de suite.
Non.
Ah, c'est passé, là, le temps est passé.
Une fois.
Terminé. Dis-le.
Gareth Bale.
Ah non, merde.
Gareth Bale.
Non, mais vous avez rien à voir à l'affaire, là, le public, là. Et d'ailleurs, on est chez nous, vous êtes pour nous. Hein.
Ah oui,
tu vois l'américanisation des esprits, l'anglo-saxonisme, là, partout.
Super. Ah non, elle a pas trouvé Gareth Bale. Alors,
mais justement,
Gilbert.
Regarde comment Daniel aide, comment Jérôme aide.
Gilbert.
Bah non, en plus, on a validé, on s'est trompé.
Pour le Racing Club de Strasbourg, 2016-2017, en numéro 1. Pour le Racing Club de Strasbourg 2016-2017, en numéro 1. Eh bien non, c'est Landry Bonnefoy. Ah, ça fait mal. Ah, oh, ça fait mal.
Ça fait mal.
Franchement, j'ai hésité.
Ah, ça.
C'est pour ça que j'ai hésité. C'est les années, ça m'a
quand
perturbé.
Quand t'as vu Landry Bonnefoy, j'ai eu les poings qui se sont hérissés.
Mais même lui, s'il écoute, il est étonné. Il aurait dit ouais. Kitchen.
Allez, il y a encore le temps, là, 3-1. Oh, allez, les Anglais, là.
Julien Laurence, pour l'équipe de France, à la Coupe du Monde 2006, en numéro 20. Alors lui, il est hyper connu. Hein.
Oh, c'est donné, ça.
T'as pas le droit. Pour c'est l'équipe donné. De France, à la Coupe de 2006.
C'est
en numéro 20.
Le temps est passé, là. Trop tard.
Gilbert, laisse-moi réfléchir.
Trop tard.
Une fois, deux fois, trois fois.
Franck Ribéry.
C'était...
Mais non.
Non, bah non, c'est numéro 7, lui. David Trezeguet.
Bah oui, Trezeguet, mille fois.
Le 20 de l'équipe de France.
L'avais.
Polo Breitner.
Pourquoi tu l'as pas dit, Laure?
Bah, elle a pas le droit.
Mais j'ai pas le droit, c'est individuel.
Eh oui.
Polo Breitner. Pour le Bayern Munich.
Oh bah là, il peut
2012-2013. En numéro 10.
Oh, facile.
En oh, numéro
facile,
10.
Ça. C'est facile.
2012-2013.
Arrêtez, mais taisez-vous. Bah, attendez,
ah,
vous
m'avez droit.
Matin,
une fois. Attends, mais là, mais j'entends. Mais je peux même pas me concentrer, putain.
L'autre en 2012-2013.
Mais non,
on va se concentrer.
Thomas Müller.
Beckenbauer.
Non. Ariane Robben.
Ah oui, merde. Ah oui, attends, c'est tollé, ça. Mais non, mais
c'était comme
t'as dit. Je peux concentrer, c'est l'ambiance dans le stade.
C'est moins bien.
Mais non, je peux même pas me concentrer.
Je rappelle au public. On est à domicile pour les Allemands, donc ça serait gentil de pas les pourrir.
Bah oui, c'est ça le truc, quoi.
On va passer au qui s'est passé, qui est vraiment à domicile.
C'est quoi le score?
3-1 pour nous.
Oh, je suis con.
Valérien Ismaël a joué.
Attends, c'est pour qui? C'est pour tout le monde, là?
Pour tout le monde. Après, je vais faire des. Valérien Ismaël a joué dans trois clubs allemands.
Verdun de Brême, Hanovre, Bayern.
Hanovre, c'était la bonne réponse, c'était Hanovre.
Bravo, Polo.
C'était le troisième club. Question pour Gilbert Bribois.
4-1.
Question pour Gilbert Bribois. Question à domicile.
Tout à fait.
À la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, qui finit meilleur passeur?
Oh ouais.
On peut l'aider?
Non.
Non.
Non, c'est pour Gilbert.
La Coupe du Monde en Allemagne 2006.
Et après, je vais donner chacun leur tour aux autres. Et je vais passer aux Anglais. Donc Gilbert, tu l'as pas.
Non, attends, je propose un non quand même.
Non, vas-y, je propose un vite.
Zidane.
Non. Laure Le Payeur. Coupe du Monde 2006, meilleur passeur. Une.
Close. Deux.
C'est pas lui. Polo Breitner, meilleur passeur. Coupe du Monde 2006.
Je dirais...
Une fois.
Attends.
Deux fois. Trois fois, tu l'as pas.
Podolski.
Non. En meilleur passeur, Julien Laurence. Coupe du Monde 2006.
Florent Malouda.
Non. Juan Riquelme. Vous l'aviez pas. On va faire un duel. Un duel. Julien Laurence, Polo Breitner. Duel drôle de dames. Le premier qui me donne le nombre de finales d'Euro faites par l'Allemagne.
Le nombre de finales d'Euro?
Ouais. Combien de finales? Vite, vite,
quatre. Un 4.
Non.
5. 5.
Non, non.
5.
Non.
Dis un autre chiffre, Polo.
6.
6.
Non, c'est 6. Tu viens le voir,
c'est
bien.
Non, c'est moi. Je dis avant. Ouais, je lui dis avant.
Mais non,
je lui dis avant.
Arrête.
Je lui dis avant. Je lui dis avant.
Le replay.
Je lui dis avant.
Arrête de tricher comme ça fait du mal.
C'est Julien.
J'ai peur pour ton cœur, Polo.
3-2.
4-2. Oh, au minimum.
On est à domicile, là.
Oh, la question de domicile qui lui a piqué. Il lui a piqué une domicile, là.
4-2.
Mais non, je l'ai dit avant. Regardez le replay.
Mais non.
Calmez-vous. Polo, t'as le droit de ne pas savoir que Robben est numéro 10 au Bayern et que l'Allemagne a fait 6 finales.
Attends, il m'en manque.
Ça fait mal. Je veux faire un duel. Je veux un duel. Gilbert Bribois. Laure Le Payeur.
Allez,
Laure, allez.
Allez, Laure, pique-lui le point.
Allez, Laure,
vous deux, là.
Bah, allez, je suis pour Laure, moi.
Non, mais fermez-la, mais à tout
allez,
jamais.
Je préfère les Spice Girls.
À part Schumacher et Rudi Völler, donnez-moi un Allemand à moustache.
Stilicke,
ça compte. Hitler, ça comptait. J'avais pas dit un joueur de foot, j'ai dit un Allemand. Mais Stilicke, ça marche. Il y avait Klaus Allof, Stilicke, Hitler. C'est les trois que j'avais notés.
Bah, même Beckenbauer, tu peux dire tout.
Ouais. Alors,
tous les Allemands,
on va faire un duel Polo, Laure Le Payeur. Quel grand numéro 10 français a entraîné Mulhouse?
Garnotran.
Ah ouais, Garnotran, c'est un numéro 10 français. Mais non, on vient de lui apprendre. On vient de lui apprendre que c'est un numéro 10 français.
C'est moins un point, ça. C'est moins un point, ça.
Alors, Laure, donne un nom. Quel numéro 10 français a entraîné Mulhouse? Un grand numéro 10 qui
un que je connais, Platini?
Non. Alors non, c'était l'autre qui jouait quand c'était pas Platini.
Je l'ai, moi, je peux pas le donner?
Non, tu l'as. C'est pour ça que je t'ai pas mis dedans. C'est Bernard Gengini. Bernard Gengini. Ah, va faire un duel, Julien Laurence contre Gilbert Bribois.
Il y a 5-2. Il reste, je sais pas combien il reste là.
Julien Laurence, Gilbert Bribois.
Une minute.
À l'Euro 88 en Allemagne, citez-moi un autre russe que Rinat Dasaïev.
Ratz.
Oui, Ratz,
latéral.
Magnifique. Ratz.
J'avais 7 ans et Gilbert, il avait déjà 40 ans. J'avais 7 ans, il avait déjà 40 ans, Gilbert. C'est normal, il s'en rappelle plus que moi.
Non, j'avais 14 ans.
Bravo, Gilbert.
Je veux un duel, Laure Le Payeur, Gilbert Bribois.
Très bien.
Dans quel club anglais a joué Jürgen Klinsmann?
Tottenham.
Bravo,
Tottenham, Gilbert.
Qui aurait mérité le Ballon d'Or 95.
Dernière question, un duel Polo contre Julien. L'Allemagne compte combien de Ballons d'Or en tout? Même avec en cumulant ceux qui en ont eu plusieurs, en tout. Combien de ballons d'or? Vite!
Dis des chiffres, Polo! Dis des chiffres!
3!
5! D'autres chiffres, Polo! D'autres chiffres!
6! 4! 4! 4!
Non, Polo, tu peux plus, t'en as dit trop! Donne-en un, Julien!
Non, mais non, ils t'ont dit deux chacun!
Non,
4!
Bon, un seul, donnez-moi un dernier! Vous n'avez pas bon!
Mais c'est 5!
Non, 7!
Mais Polo, quand tu dis 5, c'est pas bon, insiste pas, t'en as un autre chiffre, enfin!
En cumulé!
Il y en a eu 5, je t'ai dit, connard!
En cumulé! Il y en a eu. Il y en a eu deux pour Beckenbauer, il y a eu comment il s'appelle, voilà. Rummenigge.
J'ai oublié Rummenigge, ça fait 7. Ça fait 7.
Beckenbauer, ça m'a oublié Beckenbauer.
Comment je peux oublier Beckenbauer, quoi, putain. Ouais.
Non mais
on a gagné
le nombre de ballons d'or, j'ai cru que c'était le nombre de joueurs qui avaient gagné le ballon d'or.
Non, j'ai dit en cumulé, tout confondu.
Est-ce
qu'on peut donner le score? Victoire de l'Allemagne.
7-2.
Tranquille, allez.
7-2. Attention, il y a un match retour, Polo. On reste un match retour.
Allez, on va envoyer Mulhouse. Ça suffit.
Enfin, est-ce que je peux retenir que Polo. Est-ce que je peux retenir quand même, juste laissez-moi parler, que Polo ne sait pas que Beckenbauer a eu deux ballons d'or, que Ariel Robben était numéro 10 et que l'Allemagne a fait 6 finales d'euro.
Ça, c'est vrai.
Merci.
Il fait le malin, il a gagné un point à son équipe, il fait le malin.
Allez, on envoie Colmar.
Un point, il a gagné.
Colmar.
Magnifique ville, Colmar.
Ça suffit.
C'est vrai.
Demain soir, le deuxième match, ce sera le match aller aussi entre les Rocco Soldiers de Daniel et Simone Rovera et les Lusitanos Grizzlies de Nicolas Villas et Kevin Diaz, bien sûr. Bonne nuit à tous, salut Laure, salut les gars. Demain soir, je serai en studio. Somptueux. À demain, Julien. Bonne nuit à tous.
RMC. L'Afterfoot.